Nous allons ouvrir le Saint-Livre dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1er. Des hommes sont allés voir Jean-Baptiste. On va le lire, s'il vous plaît, ensemble. Jean, chapitre 1er. On va lire le contexte de cette remarque que Jean-Baptiste a dû faire à ses pharisiens, qui connaissaient ou qui auraient dû connaître. Jean, chapitre 1er. Verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ?» Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Élie ?» Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ?» Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent donc, « Qui es-tu ? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés, que dis-tu de toi-même ? » ?»« Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. » Regardez bien, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Je relis donc la réponse que Jean-Baptiste fait à ces pharisiens qui auraient été censés connaître. « Moi, je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Vous pouvez garder la page et m'accompagner dans le prophète Esaïe, au chapitre 55, où nous voyons le Seigneur qui donne certaines injonctions, afin que nous puissions le connaître. Esaïe 55, nous allons lire du verset 1er au verset 9. Esaïe 55, verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Dans ce contexte, regardez donc l'injonction du Seigneur. Cherchez l'Éternel. Je répète. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Donc nous venons de faire deux textes, deux lectures. Nous voyons dans ces deux lectures un problème. Des pharisiens ont été envoyés par des religieux auprès de Jésus pour savoir qui était Jean, et la réponse qu'ils vont entendre surtout, c'est de comprendre qu'au milieu d'eux, il y a quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Alors je ne sais pas si nous pouvons, enfin nous devons le faire, le parallèle. Au milieu de nous, il y a le Seigneur. Jésus a promis que lorsque deux ou trois de ses enfants s'assembleraient au milieu d'eux, il serait présent. Vous êtes d'accord? Donc la question que nous devons commencer à nous poser pour introduire ce culte et celle-ci, comment je le connais ? Vous connaissez votre église, votre dénomination, ou une autre si vous faites partie d'une autre église. Vous connaissez peut-être le fonctionnement de l'église. Vous voyez, par exemple, si vous venez ici, vous savez comment fonctionne notre culte. On a un moment de prière avant le culte, après on a un moment de chant, puis après on a un moment de louange individuelle, on a un moment de Sainte-Cène, etc. Mais ce n'est pas pour ça que vous connaissez vraiment Dieu. Vous connaissez le fonctionnement d'une église, vous pouvez connaître des frères et des sœurs qui, eux, connaissent Dieu, mais la question que je vous pose, comment le connaissez-vous ? Et la deuxième étape, bien sûr, est apprendre à le chercher, comme on vient de le lire, pour que nous puissions le connaître comme lui voudrait que nous le connaissions. Alors, je me permets de vous le dire, comment le connaissez-vous, le Seigneur ? Comment le connaissez-vous ? Qu'est-ce que vous pouvez dire ce matin ? Qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un ? Comment le connaissez-vous ? Qu'est-ce que vous connaissez de Dieu ? Qu'est-ce que vous pourriez dire ? Sérieusement, ce n'est pas une question piège, c'est vraiment pour qu'on puisse bien comprendre la suite. Qu'est-ce que je connais de son amour ? On va prendre quelques attributs. Dieu est amour. D'accord ? Dieu est amour. Qu'est-ce que je connais de l'amour du Seigneur, des dimensions de son amour. Quelqu'un pourrait me dire, oui, mais M. Gauss, ce n'est pas possible de connaître toutes les dimensions de son amour. C'est vrai. C'est vrai, la Bible nous exhorte à connaître la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur, et pourtant, on voit bien que c'est presque impossible, tellement c'est incommensurable. D'accord. Mais qu'est-ce que tu connais de l'amour du Seigneur ? Si vous pensez que Dieu ne vous aime pas, écoutez-moi bien, frères et sœurs. Il nous arrive parfois de voir des chrétiens qui remettent en question l'amour de Dieu. Si Dieu m'aimait, je ne me serais pas pris telle tuile. Vous l'avez jamais entendu, ça ? Si Dieu m'aimait, ou alors c'est dit d'une matière peut-être plus académique, mais enfin on remet en question l'amour de Dieu. Ça peut arriver dans un moment d'épreuve, de dérailler. 5 minutes, quelques jours. Mais si vous êtes continuellement en train de remettre en question l'amour de Dieu, c'est que vous ne le connaissez pas. Quelqu'un qui connaît Dieu a appris par la parole, par l'expérience, que Dieu l'aime. C'est imparable. Dieu est amour. Vous le croyez, mes frères et sœurs ? Dieu est amour. C'est pour ça que Jean-Baptiste, en plus, il avait envoyé des pharisiens. Vous savez, ça n'a pas changé les méthodes. On envoie les autres pour... Parce que quand on est mal à l'aise. Oui, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Je ne sais pas comment ils ont réagi, parce que les pharisiens, c'était la religion nec plus hectare. Vraiment, c'était le top niveau, les religieux. Et pourtant, ils ne connaissaient pas Jésus qui était au milieu d'eux. Et nous devons nous poser la question, comment je connais le Seigneur ? Qu'est-ce que je connais ? Est-ce que vraiment, cet amour... Vous voyez, je prends un exemple pour vous dire que les gens ne connaissent pas. On va lire, tiens, justement, dans Éphésiens au chapitre 3, où il y a une prière de Paul qui parle justement des dimensions de l'amour du Seigneur. Regardez ce qu'il dit. Paul est en prison. Il n'a pas l'air trop inquiet pour son emprisonnement. Il est inquiet pour l'état des chrétiens. D'ailleurs, c'est pour ça que le Saint-Esprit l'inspire. Alors, Éphésiens chapitre 3, au verset. Regardez bien cette prière. Regardez bien, mes frères et sœurs. C'est très important, parce que je suis profondément... inquiet de voir comment les chrétiens utilisent les promesses de Dieu. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire dans 2 minutes. Éphésiens chapitre 3, Paul est en prison, il les exhorte à s'approcher de Dieu avec confiance, on le voit au verset 12. Il leur demande de ne pas perdre courage au verset 13 à cause des afflictions. Et au verset 14, regardez ce qu'il fait. Il est en prison, il dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, c'est-à-dire dans votre esprit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant, regardez bien, enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bon, ça, c'est sûr que quand on arrive là, on commence à le connaître. Regardez bien le verset 20. Le verset 20 est utilisé à tort et à travers. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. J'ai oublié un mot quand j'ai lu le texte. Le premier mot du verset 20, le mot « or ». Ce verset est utilisé n'importe comment. Vous savez, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que vous demandez ou pensez. Ce n'est pas vrai. C'est vrai pour ceux qui vivent ce qui précède. C'est pour ça qu'il y a le mot « or ». Alors moi, je ne suis pas un professeur ni de théologie, ni un professeur de français. Mais j'ai quand même appris qu'il y a des mots qui s'appellent des conjonctions, de coordination. Et ce mot « or » à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que vous demandez ou pensez, signifie qu'en vérité, oui, Dieu peut faire infiniment. Au-delà de ce qu'on pense, bon, ça nous dépasse. Mais pour ceux qui vont vivre ce qui est enseigné juste avant. C'est ça le connaître. Et moi, je suis peiné de voir la quantité de gens qui prennent des versets, surtout des promesses, ça c'est sûr que... Mais c'est un piège ça. C'est une tentation, mais tu sais mon frère, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses. T'inquiète pas. Dieu peut faire infiniment. Oui, mais bien sûr que c'est vrai. Mais, pour ceux qui ont pris au sérieux les versets qui précèdent, qui nous encouragent à nous approcher de lui, à fléchir le genou, qui est une attitude d'humilité devant Dieu. Je me présente devant Dieu, non pas parce qu'il faut que je me présente, ou vite, vite fait, je n'ai pas le temps. Mes frères et sœurs, c'est sérieux ces choses. Nous avons un grand Dieu qui gouverne l'univers au siècle des siècles. Et ce grand Dieu, il sait ce qu'il a à nous dire. Il nous dit, oui, qu'il peut faire infiniment. Mais c'est bien que de temps en temps, il nous rappelle qu'il est grand. Mais avant de comprendre qu'il est grand, il faut que je comprenne aussi ce qu'il me demande. Qu'est-ce que je connais de son amour ? Voilà, je suis sûr. Qu'est-ce que je connais de ses promesses ? Oui, les promesses, il vous faut les relier à ce qui est demandé. C'est archi important. Il y a des chrétiens qui ont abandonné Dieu parce que les promesses qu'on leur avait données comme du chocolat, eh bien, ne se sont pas manifestées. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Il y a des gens qui ont rétrogradé pour ça. Il y a des gens qui ont abandonné Dieu parce qu'on leur avait dit « Oui, Dieu fait telle promesse, si Dieu a donné son Fils, à combien plus forte raison il te donnera toutes choses ?» Mais moi, frère et sœur, il n'y a pas besoin d'être vraiment un homme plein de piété pour comprendre que les promesses, certaines, pas toutes, mais beaucoup de promesses sont liées à l'obéissance. C'est très sérieux, mes frères et sœurs. Et quand Jean-Baptiste est obligé de dire à ses pharisiens, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas, c'est quelque chose de sérieux. Il y a déjà, ils ne comprennent pas, mais comment ça se fait que Jésus sur la croix, comment ça se fait qu'il ne soit pas descendu ? Il y a vous savez, on entend tout dans le ministère. Il aurait pu descendre le Seigneur, pourquoi il n'est pas descendu ? Est-ce que Jésus pouvait descendre de la croix ? Oui. Et surtout ne pas y monter. Pourquoi Jésus n'est pas descendu de la croix ? Parce qu'il nous aime. Pourquoi dans le jardin de Gethsémané, il n'a pas réclamé des milliers d'anges qui pouvaient intervenir à la seconde près ? Pourquoi ? Ben parce que Dieu nous aime. Qu'est-ce que je connais de l'amour du Seigneur ? Il y a quelqu'un au milieu de nous, mes frères et sœurs. Il est au milieu de nous, le Seigneur. Qu'est-ce que je connais de cet amour ? Vous ne croyez pas que dans nos relations fraternelles, c'est quand même important ? De recevoir cet amour pour nous aimer les uns les autres. Sincèrement, ne soyons pas dans la théologie à trois étages. Soyons très simples. Si j'ai du mal à aimer mon frère, soyons cohérents. C'est que peut-être j'ai une difficulté à recevoir l'amour du Seigneur. Oui ou non ? Si vous lisez la prière que l'on vient de lire, le Seigneur peut remplir nos cœurs de son amour. Qu'est-ce que je connais du pardon du Seigneur ? Qu'est-ce que je connais du pardon du Seigneur ? Tiens, puisque, est-ce que Dieu pardonne ? Vous avez lu avec moi qu'une des injonctions du Seigneur pour le chercher, il est dit à ce notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Soyons concrets. qu'est-ce que je connais du pardon ? Mais je sais qu'il est mort pour moi. J'ai bien capté ce qui a été dit ce matin. Et il faut que le sang du Seigneur soit appliqué sur ma vie pour que je puisse aller au ciel, etc. Bon, mais le pardon de Dieu, le pardon, c'est pas que le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, c'est aussi le pardon qui est lié aux autres. Soyons clairs. Quand on voit certains couples, comment ils fonctionnent au niveau de la relation, vous ne croyez pas qu'il serait peut-être important qu'ils grandissent dans le domaine du pardon? Vous ne croyez pas? Est-ce que j'exagère? Vous ne croyez pas qu'il y a des couples chrétiens qui rendent un témoignage minable à cause de ce manque de pardon? Oui ou non? Mes frères et sœurs, il y a quelqu'un au milieu de nous. Il est au milieu de nous, le Seigneur. Il est présent au milieu de nous. Et il veut agir par son esprit. Mais justement, qu'est-ce que je connais sur l'amour de Dieu? Qu'est-ce que je connais sur le pardon du Seigneur? Qu'est-ce que je connais sur la paix de Dieu? Cette paix qui surpasse l'intelligence. C'est vrai ça, au fait, que quand on prie, Dieu peut nous donner sa paix qui surpasse l'intelligence. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est des blagues? C'est écrit où d'ailleurs? L'apôtre Paul, il est en prison, mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur? Non, mais il plaisante? Non, il n'y a pas de plaisanterie dans la Bible. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu par des prières, par des supplications, des actions de grâce, vos problèmes, afin que la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence repose dans vos cœurs. Mais c'est vrai, cette paix de Dieu, elle existe vraiment? Sérieusement, vous avez déjà vu des chrétiens qui n'ont plus la paix depuis des mois, des années? Vous n'en avez jamais vu? Est-ce que ça existe? Mais ce n'est pas un jugement que je prononce. Est-ce que ça existe? Vous ne trouvez pas que c'est dommage? Dommage qu'on la perde, 5 minutes, ça arrive, qu'on la perde même quelques jours, on a été affecté par un problème, une épreuve, paf, c'est comme, vous savez, c'est comme une blessure, il faut quelques jours pour que ça cicatrise. C'est normal, on n'est pas des robots. Et c'est normal, pendant quelques instants, d'avoir des fardeaux. Jésus n'a pas dit, c'est pas normal que vous vous inquiétez. Non, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Moi, je vois, c'est pas la même chose. Vous me suivez quand même. C'est normal de s'inquiéter, mais c'est pas normal de rester des mois et des mois sans la paix du Seigneur. Il y a quelqu'un au milieu de vous. Est-ce que je le connais? Est-ce que je connais cette grâce? Vous vous rendez compte, toutes les lettres commencent avec cette bénédiction, que la grâce et la paix vous soient données. Qu'est-ce que je connais de la grâce de Dieu? C'est vrai, je l'ai connu quand je me suis converti. J'ai vraiment expérimenté ça et ça. Qu'est-ce que je connais de la miséricorde de Dieu? Qu'est-ce que je connais du secours de Dieu? Ce Dieu qui s'appelle Jéhovah Jiré, depuis qu'Abraham a vérifié combien Dieu pourvoyait lorsque l'on obéit. C'est vrai, ça aussi, il faut en tenir compte. Parce que dire à quelqu'un, il s'appelle Jéhovah Jiré, comme ça, n'importe comment, c'est peut-être un peu léger comme réponse. Si nous obéissons au Seigneur, votre Dieu s'appelle Jéhovah Jiré. Pourquoi faut-il chercher l'Éternel, puisque c'est écrit? Vous l'avez lu avec moi? Vous l'avez lu avec moi dans un contexte où justement les gens cherchent la joie ailleurs? Non, non, Dieu dit la joie. Vous la trouverez auprès de moi. Qu'est-ce que je sais de la joie du Seigneur, en fait? Si je cherche la joie dans le monde, soyons cohérents, vraiment. Si je cherche la joie dans le monde, c'est que peut-être je ne la trouve plus dans la présence de Dieu. C'est pour moi qui l'ai inventé. Pourquoi je dois chercher l'Éternel? Eh bien parce que vous voyez ces choses-là, je dois les retrouver. Vous avez lu avec moi dans Ésaïe, cherchez l'Éternel. Quand pour... Alors on va le reprendre ce texte pour terminer. On va reprendre le texte simplement. Cherchez l'Éternel, alors pourquoi? Pendant qu'il se trouve. Voilà. C'est un commandement. Alors comment vous... Sérieusement, on est là dans la présence de Dieu. J'ai dit tout à l'heure qu'on connaissait le fonctionnement de l'Église, de l'Assemblée, des dénominations, etc. Mais comment percevez-vous cette parole? Un commandement? Compliqué? Une invitation de grâce? Comment vous percevez si quelqu'un dans la rue vous demande, tu sais pas, j'ai lu hier, tu sais, dans la Bible que tu m'as offerte, j'ai lu un verset, là, ça m'a fait tout drôle. Il est décrit plusieurs fois, cherchez l'Éternel. C'est quoi? C'est un commandement? Qu'est-ce que vous répondriez? Qu'est-ce que vous voudriez? Moi, je répondais, non. Oui, c'est une injonction, mais c'est surtout une invitation. Et vous voyez, il y a un état d'esprit quand même, comprendre. Pourquoi? Mais parce que qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce que tu as lu après? Pendant qu'il se trouve. Et oui, on ne devrait pas s'opposer aux injonctions du Seigneur. Combien de chrétiens, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup ici, mais il y en a, je le sais qu'il y en a. Combien de chrétiens s'opposent aux invitations du Seigneur? C'est une preuve flagrante que ces chrétiens-là, et que nous respectons bien sûr, ne connaissent pas Dieu. Écoutez-moi mes frères et sœurs, si vous contestez une parole de Dieu comme celle-ci, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Parce que comme notre frère Michael le rappelait dans la Sainte-Seine, un jour, le jugement de Dieu va s'abattre sur la terre. C'est ce que vous avez dit? C'était bien. Le jugement de Dieu va s'abattre sur la terre. Je plains les gens qui auront entendu ça et qui n'auront pas pris au sérieux ces choses. Parce que le jugement va venir sur la terre. D'ailleurs, ce que l'on voit, que vous regardiez les informations en Asie, en Amérique du Sud ou partout sur la terre, ce que vous voyez sont les prémices de la colère. La colère de Dieu va s'abattre une fois que l'Église aura été enlevée. C'est pour cela que Dieu, dans son amour infini, nous dit qu'il faut le chercher pendant qu'il se trouve. Parce qu'un jour, il ne se trouvera plus. Et c'est sur la terre qu'il faut le chercher. Ne faites pas l'erreur qu'ont commise des multitudes d'hommes et de femmes sur la terre qui ont dit, eh bien si c'est vrai tous ces trucs, si c'est vrai, eh bien on se repentira après la mort. Moi je l'ai entendu, je ne sais pas combien de fois. Mes frères et sœurs, lorsque vous rappelez, on a descendu ce paralytique, vous savez, par le toit. Vous rappelez, c'est magnifique ces histoires. On a descendu un paralytique parce qu'il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait pas accéder à la présence de Jésus. Donc, je ne sais pas qui c'est qui a eu l'idée, on va passer par le toit, ce n'était pas les mêmes toits qu'aujourd'hui. Et on va faire descendre Jésus, ils avaient pris 4 cordes, etc. Et tout d'un coup, pendant la réunion, clac, clac, il y a un paralytique qui descend. Bon, c'était des réunions bien. Et Jésus, il regarde le paralytique et il lui dit, « Mon enfant, sois guéri. » Comment non? Qui c'est qui a dit non? C'est Madame Bourdel, non? Vous me contredisez? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors qu'il était là, paralysé. Les pharisiens, pleinement dans leur grande spiritualité, vont parler entre eux, vont raisonner à l'intérieur d'eux. Et on dit, mais pour qui se prend? Mais pour qui se prend? Pour pardonner les péchés? Jésus, connaissant leur passé, leur dit, mais qui est le plus aisé au fait? C'est quoi le plus facile? De dire à cet homme, tes péchés sont pardonnés, ou de lui dire, prends ton lit, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés. C'est sur la terre qu'il faut s'occuper du pardon des péchés. C'est sur la terre. Et si vous n'êtes pas converti, ne vous amusez pas à jouer à ce jeu de dire, ouais, bon, ça a l'air sérieux ce qu'ils disent, ils ont l'air convaincus ces gens, mais on verra après. Après, ça sera trop tard. Une seconde après votre mort, vous vérifierez que ça a été dommage de ne pas prendre à cœur ces paroles du Seigneur, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et ne vous amusez pas à rajouter, oui, mais moi, vous savez, monsieur, que je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Non, ce n'est pas vrai. Si vous ne l'avez pas trouvé, c'est que vous ne l'avez pas cherché. Ou alors, vous l'avez cherché 5 minutes. Qu'est-ce que vous diriez d'un gars qui cherche de l'eau au désert avec une petite cuillère qui fait un trou de 5000 cm et qui dit, écoutez, monsieur, que j'ai cherché de l'eau, il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous lui diriez? Vous diriez, mais il te faut creuser peut-être un peu plus profond. Vous êtes d'accord? Et il y a des gens qui sont comme ça avec Dieu. Ils ne cherchent pas, ils cherchent 5 minutes parce que ça ne les intéresse pas. Mais quand vous avez soif, soif de vérité, quand vous avez soif de paix, soif d'amour, soif de pardon, quand même, quelle grâce quand dans une famille, au travail, on peut pardonner facilement. Au travail, ce n'est pas toujours évident quand on travaille avec des inconvertis, oui ou non ? Ce n'est pas une grâce de partir et d'avoir « Seigneur, donne-moi de l'amour pour pardonner ». Moi, je me souviens, il y avait un gars qui me cassait les pieds au travail. Mais vraiment, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Hein ? Ça vous est déjà arrivé ? Mais vraiment, et le matin, j'ai dit, mais c'est pas possible, tu lui serres la main, tu fais comme si tout allait bien. Et j'en avais marre d'être hypocrite. Et vraiment, vous savez, salut, tu vas bien, Francis, ça. Et un matin, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, je veux aimer ça. Et j'ai prié pendant plusieurs jours. Et un matin, quand j'ai dit, bonjour, Francis, mon cœur était rempli d'amour pour ce garçon. Et quelques jours après, comme par hasard, il a fait une expérience avec Dieu. Je sais pas, mais je crois qu'il y a des moments dans la vie, notre amour transparaît, notre pardon transparaît. Vous ne croyez pas ? Et on a un Dieu, il est au milieu de nous. Vous pouvez, il est au milieu de nous. Mais ce soir, dans votre chambre, quand vous fermerez la porte et que vous vous enfermerez pour relire peut-être ces textes, il n'a pas promis le Seigneur d'être là quand vous seriez seul dans votre chambre ? Il l'a promis ou il n'a pas promis ? Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et ton Père, qu'est-ce qu'il dit après ? Qui ? Qui voit dans le secret. Il t'entend, mais il te voit. Papa, comment t'es habillé, si t'es en pyjama, ou si t'es encore habillé avec ton costume bleu marine. Dieu te voit, il voit ton cœur. Il voit les intentions de ton cœur. Il voit comment tu pries. Il voit si tu le cherches, ou si c'est de la comédie, ou si c'est de la religiosité. Il voit, c'est pour ça que tu dis, quand tu pries, entre dans ta, ton Père te voit. Il voit comment je l'invoque. Il voit si je l'invoque. Seigneur, mais c'est vrai, je vais abandonner mes prières toutes faites. J'en ai marre de ces prières toutes faites, d'aller au culte par habitude, de faire les choses par habitude. Il faut que je me débarrasse de ça, que j'apprenne à chercher Dieu. Chercher l'Éternel. Et moi, je m'adresse à vous qui n'êtes pas baptisés, qui n'êtes pas convertis, et même qui êtes baptisés et peut-être pas convertis. Parce que je vous le dis, il y a au milieu de nous, dans nos églises, dans toutes les dénominations de ce pays, et même ceux qui sont le plus proches de la doctrine, il y a des chrétiens qui ne sont pas passés par la nouvelle naissance. Vous savez, ça va loin cette affaire. Jésus s'est adressé au docteur d'Israël. Ce n'était pas le plus ignorant. Le docteur d'Israël, c'est-à-dire le pasteur des pasteurs. Il s'est approché de ce pasteur et il lui a dit, Nicodème, tu sais, il te faut naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Écoutez, il a dit ça au pasteur des pasteurs de l'époque. Donc je ne vous dis pas combien ça devrait nous faire réfléchir et dire oui, je veux connaître ce Dieu, je veux chercher ce Dieu. Il y a des gens, ils viennent, ah j'étais catholique, j'ai envie d'être évangélique. Vous changez de quoi ? Juste d'étiquette ? Il y a des gens, ils changent d'étiquette, ils changent d'aquarium. Vous voyez ce que je veux dire ? On le voit ça, il y a des gens, ils changent de religion. Mais leur cœur n'est pas bouleversé. Il y a déjà, ils ont pris le baptême pour faire plaisir à leur papa, ou à leur maman, ou à leur pasteur. Mes frères et sœurs, quand on est convaincu de péché, laissez-moi vous dire que quand on se convertit, on a besoin de s'engager avec le Seigneur. On en a besoin. Quand on aime quelqu'un, on s'engage. Vous ne le croyez pas ? S'engager, oui, pendant qu'il se trouve, pendant qu'il est prêt. Mes frères et sœurs, ça vaudrait peut-être la peine. Ça vaudrait peut-être la peine que vous preniez votre concordance et que vous regardiez tous les textes dans la Bible qui sont reliés à la bénédiction de chercher Dieu. Pas de prier pour prier, pas d'aller à l'église pour aller à l'église, pas de lire pour lire la Bible, pas de servir pour servir, parce que moi je peux vous dire que je suis bien placé, très bien placé, pour vous dire qu'on peut prêcher et ne pas obéir à Dieu. On peut servir Dieu et faire 16 heures par jour et ne pas obéir à Dieu. Je l'ai fait. Tellement j'étais pris par l'activisme, je servais Dieu et je m'en éloignais. Parce que l'activisme avait pris le dessus sur la communion. C'est pitoyable. Et c'est ce qui, ça m'est arrivé. Donc je sais très bien que chacun peut le vivre. Prenons quelques textes. Et je voudrais vous demander de faire la même chose chez vous, de demander à Dieu
Vous, tout le monde a une concordance. Vous tapez sur votre Google concordance biblique et vous tapez à la recherche chercher, ou cherche, et vous allez trouver tous les textes qui nous montrent la bénédiction de chercher Dieu. On va prendre un texte, un premier, dans le Deutéronome au chapitre 4. Regardez. Mais vraiment, mes frères et sœurs, à partir de ce moment, vous n'avez plus besoin de moi. Vous pouvez le faire tout seul. Deutéronome, chapitre 4. Bon, le contexte, ça n'a pas été trop bien. Le contexte, c'est que le peuple est dispersé à cause de son désobéissance. Deutéronome, chapitre 4, verset 27. Regardez bien, le contexte, il y a éparpillement. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a eu désobéissance. Bon. L'Éternel vous dispersera, verset 27, parmi les peuples. Et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrages de main d'homme, du bois, de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Regardez bien le verset 29. C'est très simple. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Voyez, c'est de là. Là où je me suis loupé. Là où je me suis trompé, là où j'ai commencé à me disperser, là où j'ai commencé à servir Dieu machinalement. Quand est-ce que j'ai commencé à retomber dans tel travers? Quand est-ce que je suis tombé dans cette affaire où je cherche ma joie dans la télé, plus que dans la présence de Dieu, où je cherche ma joie dans une activité, plus que dans la présence de Dieu? Mais qu'est-ce que c'est qui s'est passé? C'est de là. Le Seigneur nous demande. Vous rappelez quand cet ouvrier avec sa hache avait perdu son fer de hache? Parce qu'il n'a pas vérifié sa hache, je peux vous le dire. Parce qu'il a dû le sentir, mais il n'a pas fait gaffe. Vous savez, on ne fait pas attention des fois. On le sent quand un outil s'en va, je peux vous le dire. On le sait. Quand un outil se démanche, on le sait. Bien avant de taper, je vous le dis. Et le prophète lui dit, où est-il tombé? Vous croyez que ça gênait Dieu de faire remonter le fer, il aurait lancé le bois n'importe où, le fer remonter. Quand dans l'Apocalypse, il lui dit, ton premier amour, tu as abandonné, souviens-toi d'où tu es tombé. Ah bon, c'est une chute? Ben oui, c'est une chute. Si Dieu n'est pas en premier dans votre vie, je peux vous dire que c'est le début d'une chute. C'est de là que tu le trouveras. Bon, je vais revenir, où c'est que c'était? Mais c'est quand je me suis attrapé avec Michael. Je me suis attrapé avec Michael. Il y a combien? Il y a 3 ans? Il y a 2 ans, non? Et je ne lui ai pas demandé pardon. Bon, c'est pas grave. C'est qu'un stagiaire, Michael. Mes frères et sœurs, il faut chercher Dieu et aller là où ça a bloqué. Mais c'est avec ma femme que je me suis attrapé. Mais ça va mal depuis qu'avec ma femme, on est toujours sous tension. Tout le temps en train de s'allumer pour un truc, pour un rien. Vous savez pas ce que c'est, ça. Mais c'est de là. Il faut que je demande pardon à ma femme. Oui ou non? C'est de là. Écoutez-moi, est-ce que c'est de la grande théologie, ça? Là où tu t'es dispersé, là où tu t'es trompé. Il y a une affaire, il y en a peut-être deux. C'est peut-être avec le collègue Francis du boulot avec qui tu fais que t'allumer, c'est peut-être avec ton épouse, c'est peut-être avec tes enfants. Moi, demander pardon à ma femme, non mais tu plaisantes? Si vous en êtes là, écoutez-moi bien, si vous en êtes là de dire, ah non, moi je ne demande pas pardon, vous ne connaissez pas le Seigneur. Je vous le dis humblement, demandez-lui. Entrez dans votre chambre, enfermez-vous, balancez votre portable et vos ordinateurs et vos télés et plongez-vous dans la présence de Dieu, parce que moi je crois que ça vaut la peine de chercher l'Éternel, parce que quand on cherche l'Éternel, on le trouve. On le trouve. Cherchez l'Éternel. Prenez votre concordance. Regardez, Lamentation de Jérémie. Ça vaudrait la peine. Ah mais franchement, vous pouvez le faire ça. Là vous n'avez pas besoin de moi. Peut-être pour quelques explications quand même. Non? Dans Jérémie, c'est un homme qui a beaucoup souffert. Il a vraiment pleuré, cet homme. Le peuple de Dieu était vraiment en difficulté. Personne n'obéissait. Et voilà qu'il va faire une expérience, une belle expérience. Il passe un moment difficile, comme ça peut arriver à chacun. Il passe un moment difficile, tout le monde se moque de lui, etc. On a même mis son nom en chanson. Enfin, c'était compliqué. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, il est perdu. Il est perdu. Il le dit au verset 18, ma force est perdue, j'ai plus d'espérance. Il commence à penser, puis il réfléchit quand même. Et regardez ce qu'il dit, on va lire le verset qui nous intéresse. Il est vraiment en difficulté, mais comme c'est un homme de Dieu, il s'approche de Dieu, et voilà, son cœur commence à se réchauffer. Et il dit, verset 25, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Vous avez vu ? Hein ? Ça ne vous intéresse pas, ça ? L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Voilà ce que c'est chercher Dieu. C'est pour ça que nous ne devons pas être gênés lorsque nous avons des moments de silence pendant la Sainte Cène, parce que ces moments de silence sont aussi des moments de prière, d'adoration, de contemplation, oui ou non ? Moi, je le crois vraiment. Mes frères et sœurs, combien nous devrions peut-être reprendre tous ces textes ? Je vous le dis, vous pouvez le faire. Qu'est-ce qui se passe lorsque je cherche Dieu ? Regardez dans Esdras. Esdras, c'est après c'est dans la Bible. Esdras, dans l'Ancien Testament déjà, vous voyez, ça vous aide. Au chapitre 8, regardez ce verset s'il est beau. Franchement, en plus c'est dans un contexte compliqué. Vous savez, Esdras, Néhémie, c'est des hommes qui ont vraiment, vraiment souffert parce qu'il fallait qu'ils reconstruisent les murailles, qu'ils reconstruisent le temple de Jérusalem, et je peux vous dire que ça n'attirait pas tout le monde. Il y en a même qui ont préféré rester à Babylone. Esdras, chapitre 8, on va lire le verset qui nous intéresse, le verset 22. C'est des versets qui sont universels, bien sûr, qui peuvent correspondre à tout le monde. « J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, regardez bien, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. » Il y en a un qui peut dire « Alléluia ». Je le relis. « La main de notre Dieu est pour leur bien, pour tous ceux qui le cherchent, virgule, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Et c'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. » Qu'est-ce que ça veut dire ce texte ? Que Dieu a une main pour bénir. Vous le croyez que Dieu a une main pour bénir ? Mes frères et sœurs, est-ce que vous le croyez ? Est-ce que peut-être quelqu'un ne connaît plus cette main bénissante ? Moi, je ne veux pas être pour accabler, mais peut-être que quelqu'un, ah, mais moi, cette main bénissante, je la vois plus, je la connais plus. Vous le croyez que Dieu a une main pour bénir ses enfants ? Pour ceux qui le cherchent ? Si cette main bénissante n'est plus votre partage, eh bien, cherchez-le. Dieu a une main bénissante pour ceux qui le cherchent. Dieu a de la bonté, comme on l'a lu dans Jérémie, pour ceux qui espèrent en lui. Ceux qui espèrent en lui, ceux qui le cherchent, c'est pas du bout des lèvres. Combien je voudrais que vous vous appliquiez à chercher le Seigneur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Quand même, un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, vous ne trouvez pas que c'est une bénédiction ? Quand je vois tant de gens remplis d'amertume, remplis de colère, « Oui, mais si tu étais à ma place, tu dirais pas pareil. » Mais qu'est-ce qu'ils en savent, les gens, d'ailleurs ? Ce que chacun en a traversé dans les conflits. Et qu'est-ce que c'est cette réponse ? Qu'est-ce que c'est cette sortie ? Moi, je trouve que c'est compliqué de se comporter comme ça. Un dernier que j'ai souvent cité, que j'aime vraiment, parce que je sais que des chrétiens, c'est le comportement de certains chrétiens qui m'a amené à réfléchir sur ce verset. Dans Hébreux, chapitre 11, il y a un texte vraiment qui en dit long. Dans Hébreux, vraiment c'est un verset moi, qui m'a beaucoup aidé, vraiment aidé, et à expérimenter son secours. C'est le verset 6 d'Hébreux 11. Vraiment, c'est un verset qui m'a beaucoup interpellé. Parce que c'était un séminaire que je faisais dans le nord de la France, où une femme avait mal interprété ce verset. Et c'est là que j'ai réalisé la profondeur de ce verset. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi, c'est croire Dieu sur parole. Dieu l'a dit, je le crois. Franchement, ce n'est pas compliqué. Oui ou non? Combien de gens veulent à la foi? Ils veulent des sentiments. Mais si je sentais, voyez, il n'est pas dit, si j'avais de la mémoire, moi, monsieur Gaud, je n'ai pas de mémoire, je lis, mais il n'est pas dit, il vous sera fait selon votre mémoire. Il vous sera fait selon votre foi. Heureusement que ce n'est pas selon notre mémoire, parce que certains... Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut, c'est un impératif. Là, ne négociez pas cette affaire. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Qu'est-ce que vous en pensez de cette première partie? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est compliqué ou c'est simple? C'est compliqué ou... Vous rendez compte si Dieu avait dit, il faut que celui qui s'approche de moi ait donné sa dîme depuis un an et demi, au moins, sans louper un dimanche. Il faut que celui qui s'approche de moi prie au moins une heure par jour, au moins 6 mois d'affilée. Il faut que celui qui s'approche de moi soit, comment dirais-je, irréprochable depuis des années. Vous avez vu la bonté du Seigneur? Il demande une chose. Il faut que celui qui s'approche de moi croit que j'existe. Vous ne trouvez pas qu'il est bon, le Seigneur? Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et c'est vrai que je faisais un séminaire, j'étais au Havre, et il y a une sœur qui m'attendait à la sortie. Je vous ai déjà donné ce témoignage. J'avais fait 3 ou 4 jours de mission, elle m'attendait à la sortie, elle trépignait, je voyais qu'elle n'était pas contente du séminaire. Bon, il y avait qu'elle. Et elle m'attendait, elle me dit, monsieur Gaud, j'ai quelque chose à vous dire, ce séminaire, moi, franchement, il faut prier, et puis que vous avez dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui prient, c'est pas vrai. Et je lui dis, mais ma sœur, c'est pas ça qui est écrit. Il n'est pas écrit que Dieu rémunère ceux qui prient. Vous allez lire avec moi, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et cette femme, elle, j'ai dit, mais vous avez retenu que ça du séminaire? Vous avez retenu que ça? Vous n'avez pas compris? Alors j'étais quand même soucieux de son âme, en même temps, ça me faisait de la peine. Mais j'ai dit, mais ma sœur, vous n'avez pas compris que si Dieu, pendant 3 ou 4 jours, nous exhorte à prier, c'est qu'il veut nous exaucer. Mais moi, je ne sais pas si Dieu nous parle de prière. Comment vous le voyez, vous? Si c'est un jour, ah ben encore, il faut prier, il y en a marre, il faut toujours prier. Il nous rappelle toujours qu'il faut prier. Mais moi, je vous rappelle, ou je vous enseigne, que Dieu veut vous exaucer. Qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas, que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Mais quand il est dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, eh bien, excusez-moi, mais ça paye de le chercher. Ça paye de se tenir dans sa présence. Dieu voit. Vous savez, on va avoir la réunion cet après-midi, ce soir on va rentrer. Dieu va voir, Dieu étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux qui le cherchent. C'est écrit ou c'est pas écrit? Dieu étend ses regards sur toute la terre, bien sûr que ça nous dépasse, cette préscience, cette omnipotence, ça nous dépasse. Dieu étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux qui le cherchent. Et si tu le cherches, mon frère, ma sœur, ça payera. Excusez-moi pour le mot, mais ça paye. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et on peut aller à toutes les réunions, on peut lire sa Bible en boucle, on peut faire ce qu'on veut, servir, prêcher, n'importe quoi, et ne rien obtenir. Moi, je crois que Dieu bénit ceux qui le cherchent. Ça m'étonnerait que Dieu ait menti dans un texte de la Bible. Vous croyez que Dieu aurait pu nous la jouer comme ça? De prendre un verset que ce n'est pas vrai? Une petite plaisanterie? Mes frères et sœurs, cherchons l'Éternel. Cherchons sa présence. Il va revenir. Cherchez-le. Il y a une main pour bénir. Vous n'avez pas envie d'être béni? Vous n'avez pas envie d'être au bénéfice de cette paix, de cette grâce, etc., etc. Tout ce que Dieu peut donner, qu'est-ce que Dieu pourrait te donner, au fait? De quoi tu as besoin? Il y a d'abondantes joies devant sa face. Je vous donne ce petit témoignage parce que je vois qu'on est en avance. Il y a 3 semaines, j'ai 3 semaines d'ici, j'ai vraiment eu une parole qui m'a blessé. Vraiment une parole qui m'a blessé. Et sincèrement, j'étais dans le jardin, vous voyez. J'ai reçu un courrier. Et ce courrier m'a blessé. Et j'ai dit, écoute Seigneur, je te connais. Tu vois, j'ai la paix. J'ai vraiment la paix. Mais je te demande de me donner cette joie. J'ai fait, je crois aller, je vais peut-être exagérer, 2 pas. Et Dieu m'a rempli de sa joie. Rempli. Parce que je crois que quand Dieu dit « demandez et vous recevrez », il le fait. Vous croyez que Dieu peut donner sa joie? Je vous assure, moi j'en ai pleuré. J'en ai pleuré de joie. Vous savez, quand vous obéissez au Seigneur, quand vous obéissez, vous pouvez lui demander « donne-moi, Seigneur ». Et il le fait.